Bienvenue sur le podcast de la Révolution bilingue. Je m'appelle Fabrice Jaumont et aujourd'hui je vais vous emmener en Louisiane à la rencontre de Joseph Dunn, une personne très active dans le développement des programmes d'immersion en français et aussi un francophone de Louisiane. Il faut savoir que la Louisiane a rejoint très récemment l'Organisation internationale de la francophonie et c'est grâce au travail de Joseph et d'autres personnes que c'est possible. Ce podcast est proposé conjointement avec French Morning et chaque mois, il nous permet d'aller à la rencontre de praticiens ou de chercheurs spécialisés dans le domaine du bilinguisme et de l'éducation bilingue. Bonjour Joseph, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ?
Bonjour Fabrice, je peux bien me présenter, je m'appelle Joseph Dunn, je suis Louisianais, j'habite à la Nouvelle-Orléans et je travaille depuis de nombreuses années dans les domaines touristiques et culturels. J'ai travaillé aux différents niveaux du gouvernement louisianais, j'étais au ministère de la Culture de l'État de Louisiane, j'étais à l'Office du Tourisme de l'État de Louisiane, j'étais aux relations internationales auprès du lieutenant-gouverneur de l'État et j'étais au Consulat général de France à la Nouvelle-Orléans et j'étais directeur du Conseil pour le développement du français en Louisiane, que tout le monde connaît comme le CODEFIL pendant 3 ans. Et depuis 2014, je travaille comme consultant dans le domaine, encore une fois, touristico-culturel.
Et tu es francophone, anglophone ? J'essaie de comprendre ton accent.
Ça dépend de la définition. Si on reste sur les définitions universelles de la francophonie, je suis francophone parce que je parle français. Je ne suis pas forcément de langue maternelle française, mais c'était dans la famille depuis des générations. Jusqu'à mon arrière-grand-mère et moi, le français, je l'ai réacquis quand j'étais petit garçon.
À l'école ?
Un peu en famille avec mon arrière-grand-mère parce que je l'avais entendu et il me restait des notions de français quelque part. Oui, j'ai fait des cours de français langue seconde à l'école élémentaire et c'est ressorti comme ça, comme une espèce de déclic génétique, un truc que j'arrive pas vraiment à expliquer.
Donc explique-nous un petit peu ce que tu as fait de ce français à la suite, quoi, après ta scolarité.
Après la scolarité, je savais depuis toujours que je ne voulais pas être professeur, parce que je ne suis pas vraiment fait pour cela, mais que je voulais travailler avec ce français, me trouver ou me créer un chemin en français. Et pour moi, le tourisme était le secteur le plus évident, parce que j'aimais beaucoup cela, j'aimais beaucoup l'histoire. Je savais qu'en Louisiane, on avait beaucoup de choses à dire. Une vraie mosaïque francophone et créolophone en Louisiane qui dépasse de loin tout ce que l'on voit à la télévision, tous les clichés, les stéréotypes, les idées reçues. Et pour moi, c'était le chemin le plus évident, le tourisme, de travailler dans ce domaine et aussi la culture. Et le fait que je parlais français m'a ouvert plein de portes, plein de fenêtres, plein d'opportunités. Et depuis plus de 25 ans maintenant, je travaille avec ce français dans les différents domaines. Je peux dire que je travaille tous les jours en français. Je représente et je fais tout ce qui est marketing et relations publiques d'une ancienne plantation de canne à sucre qui s'appelle Laura, qui est très connue des Français, qui est très bien documentée dans tous les guides francophones. J'ai participé à pas mal d'émissions télévisées, de reportages sur la Louisiane.
Donc tout ce parcours est lié à ton bilinguisme et à cette habilité à naviguer dans les deux univers.
Tout à fait. J'ai été toujours recruté sur ces différents postes. Parce que je parlais français, parce que le français me permettait de travailler non seulement ici en Louisiane, mais aussi avec des francophones de partout. Et ça a toujours été ce que j'apportais à ces emplois.
Alors, on peut parler maintenant de cette expérience du CODEFIL. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que fait la Louisiane en termes d'éducation bilingue, justement ?
Oui, bien sûr. Mais il faut peut-être d'abord situer le CODEFIL. Ce que c'est, encore une fois, c'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'est la seule agence étatique, donc d'un État américain, qui a comme mission, comme mandat législatif, la promotion, la sauvegarde, le développement des langues d'héritage. En Louisiane, c'est le français, c'est aussi le créole, parce qu'il y a évidemment cet aspect aussi. Cela a été créé par acte législatif en 1968, donc le Code de Fil Fête, c'est 50 ans cette année. Et c'était, dans un premier temps, la réintroduction des cours de langue française dans les écoles élémentaires, les collèges, et ensuite, depuis le milieu des années 80, début des années 90, le focus est beaucoup plus sur l'immersion, donc les écoles d'immersion, donc, et aussi l'expansion des écoles d'immersion. Mais il y en a une trentaine, 32 si je compte bien, en Louisiane aujourd'hui, dispersées vraiment à travers l'État. Il y en a dans les différentes villes, il y en a aussi dans les zones rurales, et ça connaît un grand succès depuis le début.
Donc, quelles sont les familles qui mettent leurs enfants dans ces écoles?
Bah, ce sont les familles comme on peut en trouver n'importe où. Il y en a qui sont intéressés par ces écoles parce que il y a dans la famille un héritage francophone ou créolophone. Il y a des gens qui veulent tout simplement avoir une meilleure éducation pour leurs enfants, qui voient la valeur d'une éducation bilingue. Et il y en a qui voient aussi la réussite scolaire, l'ouverture sur le monde, ben tout ce que l'on voit, tout ce que l'on lit sur les aspects positifs de ces environnements éducatifs. Hein.
Et donc, quel est l'avenir du français en Louisiane finalement? C'est très positif. Comment est-ce que tu vois les choses avec ces jeunes francophiles qui sortent sur le marché?
Encore une fois, on va retomber sur des définitions, parce que là, quand tu dis francophile, je pense immédiatement à la définition canadienne, qui est une définition plutôt politique. Moi, je ne les appelle pas du tout des francophiles, je les appelle des nouveaux francophones. Il faut commencer vraiment à les voir comme cela et à commencer à développer des pistes et des chemins pour ces jeunes. Parce que bon, c'est toujours une question que je me pose à moi-même et que je pose généralement aux éducateurs, aux politiciens, à tout le monde qui soutient ces environnements d'immersion. Donc, quel est le futur? Et pour moi, c'est la création d'emplois, c'est la valorisation sociale et économique de ces nouveaux francophones en Louisiane. Parce que beaucoup de gens, même ici, n'ont pas du tout les différents repères pour comprendre comment les identités linguistiques en français, en créole, ont été expressément déconstruites en Louisiane à travers le XXe siècle. Chez certaines personnes d'une certaine génération, il y a un vrai décalage identitaire et un décalage relationnel au français. C'est complexe et c'est aussi complexé. Parce que nous sommes toujours dans ce genre de dialogue avec les gens qui, enfants, parlaient français à la maison, qui, en entrant à l'école, ont dû apprendre et parfois qui ont été punis, qui ont été ridiculisés, qui ont été abusés parce qu'ils parlaient français. Donc ce n'est pas seulement une histoire louisianaise, c'est une histoire avec les gens qui parlaient une autre langue un peu partout aux États-Unis. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé en France avec les langues régionales, fin 19e, début 20e. Donc il y a énormément de similitudes là-dedans. Et comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner ces gens dans une réflexion de comment se répositionner par rapport à ces langues et aussi par rapport aux jeunes qui commencent à les parler. Parce que ce qui s'est passé dans beaucoup de familles, c'est que du jour au lendemain, les gens, ils ont tout simplement décidé de ne plus parler français et de parler anglais. Il y a pas mal de séquelles hein, de cette période. Là, maintenant, il y a un clivage. Bah vraiment, il y a une espèce de gouffre entre la vieille génération qui était de langue maternelle française ou qui est un peu bilingue, et les jeunes qui sont scolarisés en français. Et donc, on a deux générations, généralement, entre les parlants français et les jeunes qui l'apprennent. Et pour beaucoup, qui n'ont aucun héritage francophone ou créolophone. Donc, c'est vraiment cette question de création identitaire qui m'intéresse moi beaucoup, parce que pour le jeune Louisianais afro-américain, hispanique, asiatique, de n'importe où, ou le jeune Louisianais de souche américaine. Cet enfant, ce jeune, aura acquis le français, mais comment est-ce qu'il va être ancré dans cette langue qu'il aura acquise à la fin de sa scolarité, que ce qui va faire qu'il continue à parler français, que va-t-il faire avec cette langue? Moi, je suis très, très intéressé par ces questions-là. Ça a toujours été un peu mon cheval de bataille, c'est la création d'emplois. Parce que je crois sincèrement que la valorisation économique est un aspect essentiel pour le développement de n'importe quelle langue.
Et quelles sont les pistes alors pour justement les amener vers des emplois francophones ou dans lesquels ils utiliseraient le français?
Pour moi, encore une fois, c'est une évidence que le tourisme y soit. Il y a beaucoup, beaucoup de Français, beaucoup de francophones qui viennent ici justement parce qu'il y a ce passé français, ce passé francophone. Et pour beaucoup, quand ils arrivent ici, ils ne découvrent pas cela, hein, parce que c'est un peu caché. Tandis que il y a beaucoup de gens ici qui parlent français, mais qui n'ont jamais été recrutés sur des postes dans le tourisme ou n'importe où les employeurs voyaient que le français pouvait être un atout économique. Donc il y a cela, il y a évidemment tout ce qui est nouvelles technologies, mais tout cela est à développer. C'était intéressant ce que tu disais tout à l'heure pour la création des écoles et pour monter les écoles. Donc il y a le côté terrain avec les parents qui cognent aux portes des écoles pour trouver le bon directeur d'école pour monter les environnements éducatifs bilingues. On a besoin de faire la même chose chez les boîtes, chez les entreprises, de trouver les directeurs de compagnie qui seraient intéressés par un tel projet et de tout simplement leur montrer les chiffres et de les convaincre des atouts économiques d'avoir des employés bilingues.
Et il y en a ici, on peut vraiment parler d'atouts. Est-ce que tu as déjà parler de ça, argumenter sur ça?
Moi, depuis des années, j'essaie de le faire dans le domaine du tourisme. Nous avons un excellent modèle à la plantation Laura. C'est un site bilingue. On a toujours cultivé le marché français. Et c'est un site historique. C'est une ancienne plantation de canne à sucre. On fait des visites en français 3 fois par jour. Et notre chiffre d'affaires directement lié à la fréquentation francophone dépasse les 500 000 dollars par an, donc c'est significatif. La fréquentation francophone représente entre 15 et 20 % de la fréquentation annuelle des lieux. Donc, justement, avec un seul site, on peut facilement montrer les avantages d'avoir des employés bilingues et d'offrir des services en français. Maintenant, la création d'emplois dans l'hôtellerie, dans la restauration, créer un vrai réseau de prestataires qui parlent français, je suis toujours en train d'essayer d'envisager cela avec d'autres personnes. Mais il y a comme ça des poches un peu partout en Louisiane où on peut aller et rencontrer des gens qui parlent français, mais dans des endroits, dans des petits villages. Les gens, on revient sur les définitions, francophone, francophile, tout cela, et spécialement pour les auditeurs canadiens, il y a certains concepts que nous n'avons pas ici. Comme par exemple, le concept d'identité linguistique n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas vraiment en France non plus, parce que lorsqu'on est majoritaire, linguistiquement majoritaire, cette question de langue minoritaire ne se pose pas. Donc tu poses la question au franco-français, quelle est ton identité linguistique? Le français va dire, je suis français, je parle français. Même chose pour l'américain lambda. Je suis américain, je parle anglais. Mais pour les Canadiens, ces questions, spécialement hors Québec, ces questions d'identité linguistique sont très importantes. en Acadie, dans les Maritimes, en Ontario, spécialement maintenant avec ce qui se passe avec Denise Bombardier sur Radio-Canada, qui a dit que les francophones hors Québec, ça n'existait plus. Et maintenant, avec ce qui se passe en Ontario, où le Premier ministre a décidé d'annuler toutes les questions de la création d'une université francophone et des services en français, avec 1 500 000 francophones en Ontario, donc c'est quand même significatif. Donc, mais ces questions comme ça de revendications linguistiques, de droits linguistiques, tout ça, malheureusement, ces concepts n'existent pas chez la génération qui aurait pu, d'une certaine manière, conserver le français sur les différents plans sociaux, économiques, etc. Or, chez les gens de notre âge, et plus jeunes, qui ont un peu voyagé, qui ont étudié un peu à l'étranger, qui lisent, qui ont maintenant ces réseaux plutôt internationaux, parce que avec les réseaux sociaux, avec Internet, on peut être en contact et on peut consommer beaucoup plus d'informations sur ce genre de choses qui n'étaient pas du tout accessibles auparavant. Donc ces concepts commencent à se développer, ce qui est très très intéressant à voir. Et il y a aussi la question de la ségrégation raciale que nous avons vécu ici en Louisiane au début du XXe siècle. Et dans tout ce processus de déconstruction identitaire, la ségrégation raciale y joue un rôle énorme parce que à l'étranger, on parle beaucoup des Cajuns, des Créoles, mais la Louisiane est beaucoup plus complexe que cela. Il y a non moins de 18 groupes différents ici qui peuvent réclamer un héritage francophone ou créolophone. Donc c'est super, super complexe.
Est-ce que tu as des exemples?
Ah oui, bien sûr. Il y a eu des Belges, il y a eu des Suisses, il y a des Saint-Domingois, des gens de Saint-Domingue qui sont arrivés après la révolution de Toussaint-Louverture. 10 000 personnes, par exemple. Ils ont doublé la population de la Nouvelle-Orléans en 1809. Les réfugiés de Saint-Domingue étaient en nombre 3 fois plus que les exilés acadiens arrivés en Louisiane. Les exilés acadiens n'étaient que 3000 personnes sur une période de 20 ans. Les Saint-Domingois, ils étaient 10 000 en un an. Donc, mais quand on parle comme ça d'influence et d'impact, donc eux, ils étaient à l'époque beaucoup plus nombreux, évidemment. Bon, il y a tout l'aspect africain. Les esclaves, les gens de couleur libre étaient, avant la guerre de sécession, beaucoup plus nombreux que les blancs en Louisiane. D'accord ? Aussi, ils étaient francophones et créolophones. Les Amérindiens. Si l'on divise les différents groupes comme ça, les Amérindiens en Louisiane parlent beaucoup plus français aujourd'hui que les Créoles ou les Cajuns. Et ça, c'est parce que eux n'ont pas eu accès à l'éducation dans les écoles publiques que dans les années 1960. Et comme ça, ils étaient vraiment marginalisés et isolés. Ils ont pu conserver leur français beaucoup plus longtemps que les Noirs ou les Blancs. Donc cette complexité, cette mosaïque fait que d'une part c'est une richesse incroyable, mais d'autre part c'est un gros défi parce que nous sommes tellement programmés aux États-Unis de penser en termes de race et de couleur de peau et tout ça, il est très difficile de rassembler ces gens autour d'une même table et de parler de la langue française comme fil conducteur entre tous les différents groupes quand eux ils vont voir en face de eux, le blanc, le noir ou l'indien. Donc ça, ça reste un vrai défi pour le redémarrage du français en Louisiane. Voilà, donc c'est très complexe tout cela, mais fascinant.
Est-ce que tu penses que chacun de ces groupes a envie de maintenir le français et a besoin de solutions scolaires pour le faire?
Chez les Houma, par exemple, ils sont très intéressés par cette question de préservation et du développement de la langue française. Parce que eux parlent français depuis le XVIIIe siècle. Hein. Et c'est un français qui était maintenu jusqu'il y a une génération.
Donc cette nation Houma a un désir de bilinguisme, de maintenir la langue française et par le biais d'un projet d'école, alors.
Oui, c'est un projet d'école et avec l'architecte Rudy Ricciotti, l'architecte français. Donc l'idée, c'est de construire une énorme écrevisse, parce que c'est le totem, c'est le symbole de la tribu. Et dans cet édifice, il y aura des bureaux administratifs pour la tribu, une école d'immersion, une salle de spectacle, un musée, un restaurant, un centre culturel, un centre d'accueil touristique. Donc c'est un énorme projet qu'on essaie de mettre sur pied là on commence à essayer de sensibiliser les gens à ce projet. Mais eux, les Houma, ils ont vraiment au cœur de ce projet le maintien du français.
Et on voit qu'il y a le lien aussi avec le tourisme et donc l'emploi, ce que tu disais.
Oui, c'est exactement ça. Ça devient vraiment le centre...
névralgique quasiment.
Le centre névralgique exactement de la tribu.
Et de son avenir.
Et de son avenir.
Donc, tu avais développé aussi dans un de tes articles le concept de franco-durabilité que je reprends très souvent. Et tu peux nous en parler un petit peu ?
Lorsque j'étais directeur du CODEFI, je me suis rendu compte que... Parce que je viens du monde des relations publiques, de la communication, et je suis très sensible aux mots et comment les gens consomment les mots et les messages qui sont véhiculés. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment besoin, tout simplement, de faire une espèce de franco-sensibilisation qui amènerait éventuellement à une franco-responsabilisation qui amènerait à une franco-durabilité. Donc il faut tous ces différents aspects pour que la langue tienne, d'accord ? Mais une fois que l'on apprend à parler une langue, n'importe laquelle, il faut qu'il y ait des applications différentes pour cette langue. Une langue ne peut vivre en vase clos dans une salle de classe, entre les murs d'une salle de classe. Donc il faut que la langue vive à l'extérieur. Et je me suis aussi mis à penser aux différents contextes langagiers et de comment on est toujours en acquisition de langue. J'entends très souvent les Louisianais dire « Mais mes parents ne nous ont pas appris à parler français. » Et je me suis rendu compte, en élevant ma propre fille en français, que un parent n'apprend pas à parler une langue à un enfant. Un parent parle, tout simplement. Et l'enfant absorbe la langue. Et cette absorption se fait dans différents contextes, dans différentes situations. Il y a la cuisine, la salle de bain, chez le médecin, dans la voiture. Et nous sommes constamment en train d'absorber du langage. Je suis plus pour l'idée d'acquisition de la langue et pas sur l'apprentissage d'une langue. Et c'est exactement ça le concept de l'immersion. Dans une salle de classe en immersion, le prof n'est pas là en train de conjuguer des verbes. Cette acquisition se fait comme ça. Donc si j'avais ma vie à refaire, je serais linguiste ou sociolinguiste.
Mais là, tu viens d'accepter la présidence de l'Alliance française, donc,
oui,
de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que tu veux mettre toutes ces idées dans ce projet, finalement ?
Pour moi, les idées de l'Alliance, c'est toujours une question d'accessibilité. Pour beaucoup de gens, la langue française reste mentalement inaccessible. Ils pensent que le français est complètement est trop difficile, que le français n'est pas accessible, que c'est une langue de l'élite. Mais mon idée à moi, c'est vraiment de faire de mon tout pour démocratiser la langue, pour populariser la langue, pour rendre cet espace, cette Alliance française, ce bâtiment accessible aux gens. C'est vraiment une langue de partage. C'est tout le concept de la francophonie.
Et la Louisiane, d'ailleurs, vient de rejoindre ce grand ensemble de la francophonie. Qu'est-ce que tu en penses ?
Donc c'est déjà... Et d'abord, cette reconnaissance institutionnelle du fait que nous existons. Et donc, ça aide beaucoup, cette reconnaissance. D'autre part, ça nous ouvre des portes de possibilités, d'opportunités, de collaboration via, encore une fois, les différents opérateurs, IMF, APF, AUF notamment, l'Agence universitaire de la francophonie, avec les différentes universités. Je trouve très intéressant aussi les possibilités de mobilité pour les étudiants, de mobilité professionnelle, de stage pour les jeunes professionnels à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose que je suis très intéressé à avoir avancé, parce que nous avons beaucoup beaucoup de jeunes ici, de jeunes professionnels et même de professionnels qui sont dans la trentaine, la quarantaine, qui parlent français mais qui n'ont jamais travaillé en français, qui n'ont jamais été dans un lieu où c'était la langue du travail avec d'autres francophones. Ils n'ont jamais vu un clavier francophone, un écran francophone, tout autour d'eux en langue française. Et moi, je suis convaincu que même un stage à court terme, une semaine juste pour sensibiliser, aiderait beaucoup à faire avancer ce que nous essayons de faire en Louisiane avec le développement professionnel.
Merci beaucoup, Joseph.
Merci à toi d'être venu et pour cet entretien.
Ainsi s'achève l'épisode 5 de Révolution bilingue avec Joseph Dunn, qui montre qu'avec détermination, enthousiasme et passion pour la langue française, il est possible de développer des solutions qui vont permettre à des milliers de familles de préserver leur lien avec la langue française et leur héritage linguistique.